gouvernement a donc annoncé, vous ne l'aurez sans doute pas loupé, la mise en place d'un second confinement dès ce soir à minuit. Natacha, vous posez aujourd'hui une question. Qu'est-ce qui a pu mal se passer lors du précédent déconfinement pour que nous en arrivions là?
Oui, il faut tout de même rappeler qu'assez peu de pays s'en sortent bien face à cette pandémie. En Europe, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse, beaucoup sont dans une situation difficile. Ce n'est facile nulle part. Mais est-ce que la France a raté son déconfinement? Pour Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste en épidémiologie et membre de l'Académie des sciences, pour elle, cela ne fait aucun doute. Depuis juin, lors de la phase 3 du déconfinement, elle remarque un assouplissement des mesures de contrôle, avec notamment l'abandon du télétravail.
On n'a pas pris au sérieux l'organisation de ce qu'il allait falloir faire une fois qu'on serait déconfiné. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, c'était très prudent, jusqu'au 22 juin. Et à partir du 22 juin, c'est comme si la crise était finie. Et puis finalement, on a remis en place des mesures au fil du temps, peu à peu, les masques dans les lieux publics, les lieux qui accueillent du public, les masques au travail. Le protocole qui avait été prévu initialement pour les écoles était quasiment inexistant. On a fini par alléger les choses qu'on faisait au 15 septembre. On a essayé, à la sortie du confinement, faire un effort sur les transports en commun en région parisienne. Alors ça, j'en entends plus jamais parler, mais le problème existe encore. Comment on ne favorise pas le télétravail? Encore il y a 15 jours, on a dit non, on ne va pas favoriser le télétravail. Enfin, le président de la République a dit cela. C'est en ce sens-là, à mon avis, qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'imposait ce virus. Et donc, du coup, c'est pas en égrenant des mesures qui courent après le virus qu'on va réussir à contrôler sa circulation. Et pour moi, du coup, un des enjeux qu'on va avoir à l'issue du confinement dans lequel on va rentrer ce soir, ça va être d'avoir déjà en place tout l'ensemble des mesures qu'il faudra appliquer pour pouvoir être déconfiné et ne pas se retrouver quelques semaines plus tard dans la même situation que celle où on est maintenant.
Alors concernant la stratégie tester, tracer, isoler, pour Dominique Costagliola, cette stratégie n'a pas été bien menée. Alors certes, nous avons fait plus de tests, environ 1,5 million de tests par semaine, mais ils ont été conçus comme un simple acte de biologie médicale, pour reprendre ces mots. C'est-à-dire sans la logistique nécessaire derrière pour que cela soit efficace. Des laboratoires saturés jusqu'à l'absence d'une mise en place sérieuse d'isolement des patients malades, cette campagne de dépistage a été un échec. Et enfin, selon l'épidémiologiste, l'exécutif n'a pas été assez attentif au message d'alerte que le Conseil scientifique lance depuis des mois.
Les politiques, les commentateurs, le public, on a tous fait comme si c'était fini. Le rapport du Conseil scientifique qui date de fin juillet est relativement passé inaperçu, ou encore pire, a pu être commenté sur des chaînes d'information, par exemple LCI, pour dire qu'il était vide et creux, qu'il n'y avait rien dedans. Et en fait, je pense que les gens qui ont dit ça peuvent bien manger leur chapeau maintenant, puisque bien sûr, dans un des scénarios qui était prévu, c'était une reprise à l'automne ou à l'hiver, ce qui était attendu pour un virus respiratoire. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Et il y avait un certain nombre de pistes sur comment se préparer pour éviter cela. Et ceci n'a pas été entendu. Je pense qu'en partie, quand on analyse les décisions qui ont été prises, on voit bien qu'au sein du gouvernement, il y a des lignes contradictoires en fonction des différents ministres. Certains plaidant plus pour des mesures strictes et rapidement et d'autres plaidant toujours pour qu'on ne fasse presque rien. On aurait pu mieux faire. Est-ce que ça aurait totalement permis d'éviter des choses? La chose que peut-être aurait permis d'en arriver là maintenant, c'est de prendre des décisions dont on a vu que ça repartait, qui était début septembre, quand Jean-François Delfraissy a dit qu'il allait falloir prendre des décisions pas agréables. Et si on les avait pris à ce moment-là, peut-être qu'on pouvait se contenter de mesures moins sévères. Peut-être, c'est pas sûr non plus. Mais ça aurait sans doute été quand même plus efficace que de prendre des mesures plus tardivement. Parce que plus on tarde, pire c'est. Et plus c'est compliqué. C'est comme, vous voyez, si vous avez 1 km² qui brûle, le feu est plus facile à éteindre que si vous avez 150 000 km² qui brûlent.
Voilà, et on continue à suivre demain matin à 7h15 dans les matins de France Culture, dans la radiographie du coronavirus, dans laquelle bien j'essaierai de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait et pour qu'on assiste à une telle flambée épidémique ces 15 derniers jours? Quelles en sont les raisons? Que peut en dire en l'occurrence la science, l'épidémiologie et la virologie? Rendez-vous demain matin à 7h15 dans la matinale. Et on passe au bref. En seulement 6 mois, LIGO et Virgo ont détecté 39 événements d'ondes gravitationnelles.
Du 1er avril au 1er octobre 2019, la collaboration LIGO-Virgo a détecté en moyenne 1,5 événements d'ondes gravitationnelles par semaine. Des événements qui se produisent dans l'ensemble lors d'une collision de deux trous noirs ou lors d'une collision d'étoiles à neutrons. Au total, le catalogue d'ondes gravitationnelles transitoires, le GWTC2, compte désormais 50 événements de ce type. Pour les sciences spatiales, c'est une révolution. Il y a encore 5 ans, nous n'en avions encore jamais détecté.
Et pour finir, une étude parue hier dans la revue Nature, la glace sous la surface de la comète Chury est tendre comme de la barbapapa, dis donc.
En 2014, la sonde Rosetta a lâché l'atterrisseur Philae sur la comète Chury. Le robot avait alors rebondi 2 fois avant de se stabiliser. En rebondissant, Philae a ainsi produit 4 entailles qui ont révélé la glace primitive sous la couche de poussière de la comète. Les données du site de l'atterrissage ont été analysées par les scientifiques de l'ESA. Les chercheurs découvrent, avec surprise, la grande porosité du rocher de la comète. Cette glace, vieille de 4,5 milliards d'années, est, je cite, « aussi molle que la mousse qui recouvre votre cappuccino, aussi molle que l'écume de mer sur la plage, elle est plus douce que la neige la plus molle après une tempête de neige. » Cette caractéristique étonnante de la glace cométaire aidera les futurs atterrisseurs à trouver un endroit plus sûr pour atterrir.